Merci d'écouter RFI, un nouveau point sur l'info en direct de Paris, il est 2h.
Mathis Limano.
Et à la une, la Russie est une menace pour la France et l'Europe. Emmanuel Macron, lors de son allocution télévisée, le président français a mis en garde contre un certain attentisme face à Moscou. Il a ensuite reçu à l'Elysée Viktor Orban, le premier ministre hongrois. Objectif, convaincre ce très proche du Kremlin de suivre les positions des Européens à la veille d'un sommet extraordinaire sur la défense à Bruxelles. L'Europe, qui tente donc de prendre le relais de Washington, accusée de lâcher Kiev petit à petit. Dans cette édition, on s'intéresse à Eutelsat, cet opérateur de télécom européen qui pourrait prendre le relais de Starlink, le système de communication d'Elon Musk, primordial aux Ukrainiens sur le champ de bataille. On reviendra ensuite sur cette visite en RDC du représentant spécial de l'Union européenne pour les Grands Lacs. Et puis à peine rouverte, déjà fermée, après 5 ans de pandémie de Covid, la Corée du Nord referme déjà ses frontières aux touristes. La menace russe est là, elle nous touche sans connaître de frontières. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron, le président français qui s'exprimait hier soir à la télévision sur la guerre en Ukraine et la situation en Europe. Déclaration qui intervient à la veille d'un Conseil européen extraordinaire ce jeudi. Un ton inhabituel de la part d'Emmanuel Macron, comme le détaille Ulrich Buna, analyste géopolitique et chercheur associé chez Open Diplomatie.
Je pense qu'il est ce pessimisme, effectivement, et ce ton grave, il est le reflet de deux choses. Le premier, c'est un reflet assez réaliste de la situation internationale actuelle, où le principal, on va dire, sponsor de l'état de droit international et une garantie de sécurité européenne, les États-Unis, ne sont plus un allié fiable. D'ailleurs, Emmanuel Macron l'a dit, hein, il n'est plus certain finalement que les Américains seraient là pour défendre l'Ukraine, voire même au-delà l'Europe. Donc ça, c'est un vrai sujet d'inquiétude en tous les cas. Et puis je pense que ça, c'est aussi une façon de coller un petit peu à l'atmosphère générale des Français qui, je pense, me semble-t-il, beaucoup de Français ont été véritablement choqués et inquiétés en fait par ce qui s'est passé vendredi à la Maison-Blanche où Donald Trump a véritablement traité Volodymyr Zelensky comme le dernier des Vauriens alors qu'il était censé être un allié de l'Ukraine. Donc effectivement, il y a eu une montée d'inquiétude et je pense que l'objectif de ce ton grave, c'était justement déjà de coller un petit peu à la réalité et aussi de dire que finalement le chef de l'État est a tout à fait conscience de ce qui se passe et peut-être aussi une façon de rassurer en creux un peu les Français pour dire grosso modo qu'il est à la barre dans une situation un petit peu grave.
Emmanuel Macron qui tente donc de reprendre le leadership européen. L'avenir de l'Europe n'a pas à être tranché à Washington ou à Moscou, a lancé le chef de l'État lors de son allocution. Il sera ce jeudi à Bruxelles avec les dirigeants européens et Volodymyr Zelensky. L'occasion pour les 27 de se pencher sur le plan de la Commission européenne. Il prévoit de mobiliser 800 milliards de dollars sur 4 ans pour des dépenses militaires afin de réduire la dépendance du continent vis-à-vis des États-Unis. Ajouté à la suspension de l'aide militaire américaine, ce plan a pour effet de doper les cours de bourse des entreprises européennes de la défense. C'est aussi le cas dans les télécoms. Une entreprise en particulier a vu sa valeur en bourse littéralement s'envoler. Son nom, Eutelsat. Justine Fontaine, l'action de cet opérateur de satellites d'accès à Internet a grimpé de plus de 500% depuis vendredi.
La valeur de l'action a donc été multipliée par 6 en l'espace de quelques jours, car les marchés financiers se demandent si le franco-britannique Eutelsat pourrait remplacer Starlink en Ukraine. Starlink, c'est l'entreprise d'accès à Internet par satellite d'Elon Musk, l'un des bras droits de Donald Trump. Au début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine en 2022, il a donné des routeurs et des paraboles pour aider Kiev à résister aux cyberattaques russes et à piloter les drones ukrainiens pendant les combats. Le financement des équipements a ensuite été repris à sa charge par le Pentagone et par la Pologne notamment. Désormais, alors que la Maison-Blanche a suspendu l'aide militaire à Kiev, la poursuite du programme Starlink en Ukraine se trouve menacée, elle aussi. Et Eutelsat, qui détient la seule autre constellation de satellites en orbite basse, équivalente à Starlink en termes de couverture, a assuré hier mardi qu'il est déjà présent en Ukraine et que davantage de ses équipements peuvent être déployés rapidement sur place. Le groupe pourrait aussi bénéficier de la hausse des dépenses européennes de défense. Autant de raisons qui ont donc poussé les acteurs financiers à acheter massivement des actions Eutelsat ces derniers jours.
Justine Fontaine. Et sur le terrain, les frappes russes se poursuivent. Au moins un mort et 3 blessés selon les autorités ukrainiennes qui rapportent une frappe de missile sur un hôtel de la ville de Kryvyi Rih dans le centre de l'Ukraine. RFI 2h et 5 minutes à Kinshasa, suite et fin de la visite en RDC du représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs, Johan Borgstam, présent dans le cadre du soutien de l'UE aux efforts régionaux de paix. Une semaine après avoir rencontré le président rwandais Paul Kagame, il s'est entretenu avec Félix Tshisekedi, le président congolais depuis Kinshasa. Johan Borgstam a réaffirmé la position de l'Union européenne sur le conflit qui secoue la région. Explication, Patient Ligodi.
L'Union européenne rejette toute accusation de double standard en matière d'agression. C'est le message que Johan Borgstam affirme avoir adressé au président rwandais Paul Kagame lors de leur rencontre. Une réponse aux critiques comparant la position de l'UE face à la guerre en Ukraine et la présence rwandaise en RDC, selon les rapports de l'ONU. L'envoyé spécial de l'UE insiste, le respect du droit international doit être une priorité partout dans le monde. Sur la question des sanctions, Bruxelles avance à son rythme. Le 24 février dernier, les États membres a-t-il dit, ont pris une décision politique pour suivre la préparation d'une liste de sanctions individuelles. Désormais, ce sont les juristes européens qui examinent les dossiers pour s'assurer que les accusations sont fondées et conformes au droit européen. Autre sujet sensible, l'accès à l'aéroport de Goma sous le contrôle de l'AFCM-23. Johan Borgstam affirme avoir évoqué cette question avec les autorités rwandaises également. Ni le gouvernement congolais ni la MONUSCO ne contrôlent le site, affirme le diplomate européen. Une situation qui entrave toute opération humanitaire ou logistique vers l'est du pays. Aucune solution aérienne n'est envisageable à ce stade, explique Johan Borgstam. La seule alternative pour rejoindre Goma reste un passage par Nairobi suivi d'un convoi terrestre.
Patient Ligodi. Paris, Londres et Berlin exhortent Israël à laisser entrer l'aide humanitaire à Gaza sans entrave. Une interruption de l'aide qui pourrait constituer une violation du droit international humanitaire, préviennent les chancelleries occidentales qui appellent parallèlement à la libération de tous les otages. Sur fond de désaccord quant à la poursuite de la trêve, Israël bloque depuis dimanche l'entrée de l'aide dans l'enclave, justifiant qu'elle est devenue la première source de revenus du Hamas. Le mouvement islamiste menacé il y a quelques heures par Donald Trump. Si vous ne rendez pas les otages, vous êtes mort. Fin de citation. Réelle menace ou façade diplomatique? En effet, on a appris ce mercredi que la Maison Blanche était en contact secret avec le Hamas. Des échanges autour d'un possible cessez-le-feu permanent et de la libération des otages. Direction à présent la Corée du Nord. Après 5 ans de fermeture à cause de la pandémie de Covid-19, Pyongyang commençait à peine à rouvrir les portes du pays aux touristes. Mais voilà, subitement, les autorités ont fait marche arrière. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre, alors que beaucoup espéraient une réouverture progressive du pays au tourisme. Célio Fioretti.
Le régime nord-coréen n'a pas donné d'explication officielle suite à sa décision, mais pour Shreyas Reddy, journaliste spécialisé sur la Corée du Nord, la mauvaise presse au sujet du pays pourrait être la raison de la fin des visites.
Si je devais spéculer, une raison possible serait que les autorités nord-coréennes s'inquiètent des récentes photos, vidéos et descriptions faites de la ville de Rason par les touristes y étant allés à la mi-février. Depuis quelques jours, ils ont dépeint un portrait assez peu flatteur de la ville comme étant sous-développée.
Une mauvaise image que le régime nord-coréen n'avait visiblement pas anticipée, mais dont il est difficile de faire sans, d'après Joe Smith, touriste britannique qui revient de Corée du Nord.
Les Nord-Coréens se sont créés un problème tout seuls, car l'annulation du tourisme attire encore plus l'attention des médias. Disons que le pays restera fermé pendant encore un an. Quand les touristes vont revenir, ça va recommencer. Il y aura beaucoup de blogueurs prenant des vidéos, des images, donnant leur avis sur le pays, et je suis sûr qu'il y aura encore des articles assez négatifs à ce sujet.
Pour l'heure, la Corée du Nord a fermé ses frontières aux touristes occidentaux jusqu'à nouvel ordre. Seuls les touristes russes sont toujours autorisés. Célio Fioretti, Séoul, RFI.
Le pape François est dans un état stationnaire. Il n'a pas connu de nouvelles crises respiratoires depuis lundi et a alterné repos et travail, indique le Vatican. Le pape François n'est plus apparu en public depuis le 14 février, date de son hospitalisation à l'hôpital Gemelli de Rome pour une pneumonie. Suite et fin des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions ce mercredi soir. Et dans le choc de la soirée, Paris, ultra dominateur, s'incline en fin de match 1-0 contre Liverpool. Malgré un carton rouge, Barcelone s'impose sur la pelouse du Benfica Lisbonne. Réduit aussi à 10, Leverkusen s'incline 3-0 contre le Bayern Munich. Plutôt dans la soirée, la bonne opération de l'Inter Milan, victoire 2-0 à Rotterdam. Et puis en NBA, le King, toujours plus haut, à 40 ans, la superstar de la Ligue américaine. américaine de basket, LeBron James, est devenu ce mardi le premier joueur à dépasser la barre des 50 000 points en carrière. RFI, il est 2h10 à Paris, une heure de moins en temps universel.